איזה משיח? בינה למלך המשיח. שנאמר עליו, בנחת, עליו הוא החוכמה ובינה, הוא החדרה ועירת השם. Et on nous a dit toutes les catégories. Je traduis, il y a un verset à propos du Mashiach dans Isaïe chapitre 11, et reposera sur lui l'esprit de sagesse et d'intelligence, ruach, l'esprit de darat, de connaissance, veirat Hashem, et de crainte de Hashem. Alors il y a tout, il y a chokma, il y a bina, il y a ruach, darat, veirat Hashem. Pourquoi le Maharal choisit uniquement bina pour le Mashiach, l'intelligence? Il va nous l'expliquer lui-même dans son deuxième registre. Bina, l'intelligence, c'est en hébreu la fonction de la pensée nécessaire pour savoir juger, donner un jugement. Et effectivement, vous verrez tout le contexte de ce verset qui est dit pour le Mashiach, c'est celui qui pourra juger en vérité. Alors, Chochma, la connaissance, ça c'est Abraham. Mais Bina, l'intelligence, c'est-à-dire le fait d'être capable d'être chauffé, d'être juge, alors ça c'est le Mashiach. Et Da'at, le Moshe. Chokma, la connaissance, non, j'ai mal traduit, c'est la sagesse. Hein. Da'at, c'est la connaissance. Et ici, c'est la connaissance de qui est Dieu. Et Mezé Yadoua, Mimashé Amarakatou, c'est connu, appris de ce que dit le verset, où Shmi Hashem, l'honneur d'Artilaïm. Et mon nom de Hashem, mon nom de vrai, de Yudke Vavke, qu'on appelle le tétragramme, je me suis laissé dire qu'il y avait des traductions qui paraissaient, et pour être exact, alors l'auteur, je ne sais même pas de quel livre il s'agit, l'auteur écrirait « le tétragramme a dit que des magellans ». Ah ben, peu importe. Mais, vous voyez où on peut arriver. Bien. Voilà ce que dit le verset. « Ushmi Hashem » et mon nom de Hashem, « l'onodat ilahem » je ne l'avais pas fait connaître. C'est à toi, Moïse, que je fais connaître Yedia. Alors Yedia, ça veut dire pas seulement Chokma, je connais l'objet dans la vérité de l'objet, mais Da'at, je connais l'objet comme moi connaissant l'objet. Je me connais connaissant l'objet. Da'at. Da'at, c'est Me'atzmo. Chokma, c'est Mizulato. Et Bina, c'est mitor davar. Rafilu, kulanu hachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et ken. Vous voyez dans la Gada de Pessah. Hacham, c'est celui qui peut apprendre de quelqu'un d'autre. Bina, c'est celui qui peut comprendre grâce à l'intelligence. Alors il peut apprendre aussi d'un livre. Mais Da'at, c'est celui qui peut connaître par lui-même ce dont il est parlé dans la connaissance. Et je n'arrive pas, moi, à vous donner des paraphrases plus suggestive, si j'ose dire, ce sont des expériences différentes. Et dans Da'at, ce que je pourrais ajouter, c'est que ce connaissant, Moïse connaît qui est celui qui lui parle. C'est mystérieux, cela. Mais dans Moshe, il y a les lettres de Hachem inversées. Et là, je vais reprendre le verset, si vous voulez. Voilà quel est le verset. Si vous voulez la référence, c'est verset 3 du chapitre 6 de l'Exode. Vaera el Abraham el Yitzhak vel Yaakov. Et je me suis montré, je me suis fait voir. Abraham, Isaac et Jacob, El Shaddai, en tant que El Shaddai. Rashi explique El Shaddai, c'est un nom qui désigne une révélation de Dieu en tant que Dieu promet. En tant qu'il promet pour l'avenir. Le Créateur, en fin de compte, se révèle comme Créateur dans la promesse du monde à venir. Et là, il s'appelle El Shaddai. Celui qui a tout suffisamment en lui pour pouvoir promettre, dit le Midrash, sur lequel se base Rashi. El Shaddai veut dire aussi autre chose. Mais il y a cette conduite de révélation. Celui qui promet. Et c'est le temps des pères, nous explique Rashi. Vous êtes déjà un peu familier à ce thème. L'être père, c'est un être de promesse. C'est l'être fils qui est un être de réalisation. Et Israël va être appelé les enfants d'Israël, venez Israël, à partir de la sortie de Jésus. Et la révélation au Père traverse les pères, parce qu'elle concerne les fils, parle aux enfants d'Israël. Il faut prendre ça à la lettre. D'avoir il venez Israël. Alors la manière d'être à votre Père, nous ne la connaissons pas. Nous pouvons la comprendre par analogie, par induction, par inférence, Nous sommes les fils. C'est-à-dire que cette manière d'être, Abraham, Isaac et Jacob, l'être père, eh bien, c'est l'étape antérieure à notre manière d'exister, qui consiste à exister en tant que fils. Et alors, voilà ce que Dieu dit à Moïse dans ce verset. Au père, Abraham, Isaac et Jacob, regardez bien Rashi. Rashi résume Abraham, Israël et Jacob par le mot Avot. En tant qu'ils étaient les pères, je me suis révélé à eux, mais El Shaddai, en tant que celui qui promet. Mais maintenant arrive le temps de l'accomplissement. Alors, mon nom de Hachem, où je me révèle dans l'accomplissement, eux, je ne me suis pas fait connaître à eux comme ça. Mais à toi, oui. Notre maître, M. Gordin, nous avait cité un Zohar, il y a longtemps, donc, quand on avait étudié la première fois cela, en nous disant tout simplement qu'il faut regarder que la valeur numérique du mot Hachem, Yudke Vavke, c'est 26. Or, à la sortie d'Égypte, avec Moïse, on est la 26e génération de l'histoire du monde. Il y a 10 générations depuis Adam jusqu'à Noah. 10 générations de Noah jusqu'à Abraham. 6 générations de Abraham à Moïse. Alors, cette connaissance de la Havaya, de l'être accompli, s'accomplissant, de la promesse s'accomplissant, si vous voulez, ne pouvait pas avoir lieu avant la 26e génération. Vous comprenez tout ce qu'il y a là. Ça ne veut pas dire qu'Abraham ne savait pas que celui qui se révèle à lui est Hachem. Il savait. Parce que le verset dit, et Hachem se révèle à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Il savait, mais il n'avait pas encore expérimenté dans la réalisation ce que cette révélation comporte comme accomplissement. Il la connaît comme promesse, mais pas encore comme accomplissement. Et à chaque fois qu'il y a une sortie d'Égypte, une mutation d'identité, arrive ce temps où les pères suivent les fils. Suivent, ça veut dire, ici le mot est ambigu, viennent ensuite de Tira. C'est l'inverse. Vous voyez, où les fils suivent les pères, viennent ensuite des pères. Il y a le temps des pères, qui est un temps de promesse. Et au temps de l'accomplissement arrive le temps des fils. Comprenez par vous-même toutes les implications que cela implique. Et alors, je vous lirai le verset de la manière suivante, parce que c'est très difficile pour les hébreux. On va faire un petit exercice. Va'era el Abraham et Yitzhak et Yitzhak Yaakov et El Shaddai. Je me suis montré. Regardez, le verbe employé, c'est se faire voir. Era. Et vous voyez que la vraie difficulté du texte, tout le monde l'a caché. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est fait voir? On traduit en déplaçant le vocabulaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Rashi explique « Ela Avot ». Rashi cite le verset qu'il commente en disant « Abraham, Israël et Jacob, ça veut dire les pères ». Mais ça, on sait. Alors, il veut nous dire « Eux étaient capables ». Eux ont pu voir parce qu'ils étaient les pères. Est-ce que c'est clair? Bon, parce qu'il y a un verset qui dit qui lo irani Adam vahai, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Or on nous dit vaera ela. Alors nous ne savons pas comment ils ont vu. Qu'est-ce qu'on pouvait voir? Mais c'est ce que le texte dit. Les avot peuvent voir. Alors voir, ça veut dire donc recevoir la promesse. Et puis ushmi Hashem l'onodar kilaem. Et là, il y a une difficulté de traduction très importante. Vous verrez vous-même les commentateurs, Rashi ben Ezra. Il n'y a pas écrit Ushmi Hashem lo hodarti lahem. Et mon nom de Hashem, je n'ai pas fait connaître à eux. Lo hodarti. Là, ce serait un bon hébreu. Okay? Mais il y a écrit Ushmi Hashem lo nodarti lahem. Le nom d'artiste, ça veut dire je ne me suis pas fait connaître, non pas j'ai pas fait connaître. Et alors c'est comme si, disent la plupart des commentateurs, c'est comme s'il y avait ou Bishmi Hashem, et par mon nom de Hashem, je ne me suis pas fait connaître. Mais il n'y a pas écrit Bishmi Hashem, il y a écrit Bishmi Hashem. Et cette explication des commentateurs est valable, parce que il y a Be'el Shaddai, donc ce n'était pas nécessaire de reprendre ou Bishmi. Puisque le Bet de Be'el Shaddai gouverne aussi Shmi. Je ne suis pas allé trop vite. Okay? C'est comme s'il y avait Vaera Be'el Shaddai ou Bishmi Hashem l'onodarti laev. Bon, jusque-là, c'est l'explication que nous pouvons avoir habituellement. Je vous en propose une autre lecture. Simplement, une fois de plus, en tenant compte des taramim. Et voilà comment on peut lire avec l'accent. Je ne vais rien changer dans le verset. Mais essayer de faire entendre, si vous voulez, le sens dans l'accentuation. Vaera el Abraham el Yitzhak ve el Yaakov ve el Shaddai. Ushmi Hashem, lo nodati lahem. Vous avez entendu? Je répète. Vaera el Abraham el Yitzhak ve el Yaakov ve el Shaddai. Or, c'est moi qui ajoute, or, Shmi Hashem, résultat, lo nodati lahem. Vaera ken, abal nodati lo. Vous voyez que le pshat est maintenant un peu plus... ça y est, en hébreu, vous avez entendu ? Voilà, je le dis maintenant en français. Je me suis montré à Abraham, Isaac et Jacob par mon nom de El Shaddai. Or, mon nom, c'est Hachem. Donc, je ne me suis pas fait connaître d'eux, puisque mon nom, c'est Hachem. Ah, ça y est, maintenant, ça va mieux. Bon. Alors, cette connaissance par Yedia, par Da'at, celle-là commence avec Moïse. Vous voyez ? Parce qu'on est au temps de l'accomplissement. Connaître Dieu en tant qu'il est celui qui promet, c'est une connaissance par la foi. Mais connaître Dieu en tant qu'il est celui qui accomplit, c'est une autre connaissance par la foi. La première, elle est celle des pères. Et la deuxième, elle est celle des fils. Peut-être j'ajouterai une dimension d'analyse à ce problème. Parce que ce midrash qui parle de cela, il faut d'abord le mettre dans le contexte historique. Dans les textes immédiatement précédents, Moïse se plaint de ce que, alors qu'il est chargé de faire venir le temps de l'accomplissement de la promesse de la délivrance, c'est cependant maintenant que les Hébreux souffrent le plus en Égypte. Vous voyez, on est à la fin de la période des persécutions, et quand Moïse vient, et depuis que Moïse vient annoncer que le temps de la délivrance est arrivé, c'est là que la persécution se fait la plus grave. Alors il se plaint, et il dit comment ça se fait ? Depuis que tu m'as envoyé dire en ton nom que le temps était arrivé, l'accomplissement des promesses, c'est là que le peuple souffre le plus. Alors c'est là que Dieu lui répond. Parce que jusqu'à présent, j'ai promis, maintenant j'accomplis. Et c'est parce que j'accomplis que les souffrances de l'accomplissement arrivent. Ça y est, c'est clair ? À ramener dans l'image générale que vous avez dans ces textes des souffrances de l'enfantement. Et tant que c'était des espérances, une espérance, il n'y avait pas la souffrance de l'enfantement. Maintenant que le temps de l'enfantement arrive, c'est là que c'est accompagné de la souffrance. On pourrait se demander, je n'ai pas complètement de réponse à ma question maintenant, est-ce que Moïse ne sait pas cela ? Dès qu'on a entendu l'explication, elle est tellement simple, on peut se demander, mais comment Moïse ne sait pas cela ? Pourquoi il se plaint ? Ce que je pourrais dire, mais je sens que ce n'est pas suffisant, c'est que nous savons cela par l'expérience de Moïse. C'est déjà arrivé une fois. Alors on sait que c'est comme ça que ça se passe. Mais Moïse, c'était la première fois. Alors il ne savait pas encore comment ça se passe. Bon, ça peut expliquer, mais pas totalement. Bien. Et alors voilà dans quel midrash cela nous est enseigné. Lorsque Dieu dit à Moïse, comment tu te plains ? Je vais te montrer quelle était la qualité de la foi des patriarches. Abraham, je lui ai tout promis, et je ne lui ai rien donné. Et il n'a jamais douté. Isaac, je lui ai tout promis, je ne lui ai rien donné, il n'a jamais douté. Jacob, je lui ai tout promis, je ne lui ai rien donné, il n'a jamais douté. Et toi, à qui je commence à donner, tu doutes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là ? Quelque chose de très important. La foi, la relation de foi à la promesse est très facile. Enfin, elle est très facile. Elle est surhumaine, elle est héroïque. Mais elle est facile. Parce que tant que rien ne s'est accompli, il n'y a pas de place pour douter. La foi reste entière. Tant que c'est une foi dans une promesse à accomplir. Quand l'accomplissement commence, alors il y a place pour le doute, tant qu'il y a décalage entre ce à quoi on s'attendait et ce qui est en train de venir. Et dans ce midrash, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça vaudrait la peine que nous le lisions en détail, des choses extraordinaires, parce que Dieu donne des exemples très précis. Par exemple, j'ai promis un fils à Abraham, et dès que je lui ai donné, je lui demande de me le sacrifier, il ne doute pas. C'est-à-dire, il y a vraiment le dévoilement de toute la difficulté de croire de l'histoire d'Israël. Et cependant, les pères, eux, n'ont jamais douté, nous dit le... Pourquoi ? C'est moi qui ajoute ça. Parce que la foi au niveau des pères, bon, il faut le faire, mais c'est facile. Je veux dire que croire en un idéal, ça reste portable, supportable. Pourquoi ? Parce qu'il est de la nature de l'idéal d'être parfait. Alors on peut croire dans le parfait. Mais c'est lorsque ça se concrétise que là, la difficulté commence. Et que là, je dirais d'une certaine manière que la foi du Fils est plus difficile que la foi du Père. Et si on a bien compris ce qu'il y a dans ces termes. Alors, donc, c'est facile de dire à Abraham, Isaac et Jacob, j'ai tout promis, j'ai rien donné, mais ils n'ont pas douté. D'après, ça nous dévoile quelle est la qualité de cette. Bon, vous voyez toutes les implications qu'il y a là. En tout cas, cette connaissance, de quoi s'agissait-il dans les promesses? Ça, c'est Moïse qui connaît. Et puis, qui méritera cela? Ça, c'est le Mashiach qui jugera. Mais à qui cela est annoncé? Ça, c'est à Abraham. Mais c'est le même âne. Vous voyez comme on a court-circuité. Bien. Alors, nous pouvons donc continuer, je pense. Je vous dis très rapidement la deuxième explication du Maharal. Omnam Matsat. Cependant, nous dit le Maharal, j'ai trouvé. Ça, c'est sûrement dans la science de son temps, ou peut-être dans les livres de la tradition occidentale telle que les hommes de la Renaissance la connaissaient peut-être encore. Une toute autre explication, qui beacharit amuah, dans le cerveau postérieur, sham koach hazocher, c'est là qu'est le siège de la mémoire, ou beemtzar amuah koach hamachashev, dans le milieu du cerveau, c'est là qu'est la force du jugement, et ou nikra koach hashofet, c'est ce que l'on appelle donc la fonction de jugement, à chauffer dans la devarim, qui, par où le sujet juge sur les choses, chez Mekabel Adignon, sur les choses que se représente l'imagination, ou Markivam, ou Mafridam, Zemizé, le chauffer à l'air. Et il les analyse, et il les synthétise, non, il les analyse, Markivam, il les synthétise, ou Mafridam, et les analyse, et le chauffer à l'air, et juge. C'est la fonction du jugement, comme nous la connaissons. Ou Bamukudam Minamoir, mais dans le cerveau antérieur, Sham Koach Amekabel Achochma, c'est là qu'est la force de représentation de ce que nous avons appelé la sagesse. Kachmatsati, ceci je l'ai trouvé, nous dit-il. Vehine, alors reprenez le paragraphe d'en haut, et par là, Timsa, tu trouveras que Negedelu be Adam Aklali. Tu trouveras aussi ces trois forces dans l'homme total, c'est-à-dire l'homme universel. Toute l'humanité comme un seul individu. Chez Adam, Aklali ou Klal Bnei Adam, chez Mkei Shechal. Qu'est-ce que c'est que cet homme, Klali, l'homme universel? Il est comme un homme unique qui contiendrait tous les hommes. Ve Abraham, et Abraham, Keneget Koach Azocher. Abraham est par rapport à la force de la mémoire. Et là, je vous une parenthèse, c'est très important. C'est la même chose que tout à l'heure, mais dans un tout autre registre. Pourquoi Abraham peut comprendre? Parce qu'il a une mémoire. C'est-à-dire, il n'aborde pas les problèmes de la connaissance intellectuelle uniquement par la raison ou la logique pure. Il y a une mémoire. Et bien, cette mémoire, c'était ça les reins. C'est ça l'antérieur. C'est clair. Bon. Et effectivement, on a dit que la mémoire se relie à Abraham, qui, parce que l'inversé dit, qui Zachar et de voir quelque chose. Il s'est souvenu de la chose sainteté et de voir quelque chose. Il avait la mémoire des révélations antérieures, des traces de sainteté qu'il y avait dans le monde. Et Abraham Abdo, c'est Abraham, son serviteur. Vehu davar ne'ela. Et c'est une chose très importante, nous dit le Maharal. Lama zechira be Abraham. Pourquoi la mémoire est reliée à Abraham? Ki umidato. C'est sa manière d'être, capable de se remémorer, capable de se rappeler. Alors il comprend. Il est capable de chokma parce qu'il a zechira, parce qu'il se rappelle. Et nous savons très bien que cette mémoire, elle est pas intellectuelle, elle est anthropologique. C'est une manière d'être qui est dans le présent avec la mémoire du passé. Alors l'avenir lui est ouvert. Enfin, c'est un peu poétique ce que je dis là, mais... Et ensuite, la force de jugement pour le Melech HaMashiach, ça c'est comme nous avons dit pour le Messie, chez Yem Melech, parce qu'il sera roi, et la juridiction lui appartient, le jugement lui appartient. Chez Ou Yeshofet Behochma, mais il jugera avec sagesse. Dirent-il, comme il est écrit dans le même chapitre d'Isaïe, Veshafat Betzedek Dalim, et il jugera les humbles avec justice. Alors là, la sagesse, Shayach le Moshe. Ça, ça se relie à Moïse. Et là, Nimtzeru Mem Tet Shahar Rebina. C'est à lui qu'ont été révélées, transmises, les 49 portes de l'entendement, de l'intelligence. Là, d'abord, et le principe qui résulte de tout cet enseignement, qui est Adam a pratiqué, que chez l'homme individuel, Timsa Shalosh Kochot Nivdalim, tu trouveras trois fonctions séparées du corps, Mitnasim Alagouf, qui sont abstraites, au-delà de l'image, par rapport au corps, Venir d'Alim et Menou est séparé de lui, car Tsarir Shei Gamken Badam Aklalim, mais cela aussi se trouve dans l'homme universel. Shlosha Anashim, il y a eu trois hommes, Mitnaseim Alkol Animtsaim, qui se sont élevés sur tous les existants, c'est-à-dire Abraham, Moïse et le Mashiach. Bien, voilà donc, si vous voulez, un peu de ce qu'on peut apprendre en deux cours et demi sur ce texte en tant qu'il nous éclaire sur le problème de l'élection d'Israël. On va y revenir dimanche. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu écouter les conférences qui ont été déjà faites. Enfin, j'espère pouvoir en tenir compte aussi dimanche. Je crois que le point d'insertion de notre problème, et ça sera d'ailleurs surtout à propos d'un texte de M. Levinas que j'aurai à le dire, c'est qu'il y a eu une erreur d'aiguillage au temps de l'émancipation en Europe. Est apparu, si vous voulez, un type de juif cultivé d'une sorte que je voudrais essayer de définir comme étant non pas l'universel vraiment, alors que c'est cela qui a été visé, l'homme de l'universel, mais une sorte d'identité cosmopolite. Parce que ce qu'on a oublié, c'est que l'universel de l'identité juive ne peut être véhiculé que par la culture hébraïque. Et que quel que soit le véhicule plus ou moins approprié par le grec, par le latin et donc par l'allemand ou le français, enfin par les langues européennes, eh bien cette visée de l'universel par la philosophie chez les juifs a été authentique, elle était sincère, mais elle aboutit à un échec grave, les cosmopolitismes universitaires. Et je crois que c'est dans le temps contemporain, je parle des juifs, et je crois que c'est dans le temps contemporain que nous assistons à la réapparition dans l'histoire de l'être hébraïque, que nous sommes un peu mieux outillés pour le comprendre. Où était cette erreur ? C'est, je dirais, à la limite que seul un juif peut être juif. Mais n'importe qui peut être juif, ma condition d'être juif. C'est pourquoi je dis que seul un juif peut être juif. Et c'est cela, au fond, que Mendelssohn a oublié. Il a voulu être l'homme universel juif, mais en tant qu'allemand. Et son universel a été allemand. Alors finalement, sa descendance est devenue goy allemand. Il lui est arrivé un malheur, mais je crois que c'est un malheur symbolique, c'est un malheur exemplaire, significatif, qui raccourcit dans l'histoire de sa famille ce qu'il arrive de cette aventure du cosmopolitisme universitaire juif, cherchant l'universel, mais pas à travers son identité hébraïque. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Je crois que c'est ça l'essentiel de ce qu'il nous faut comprendre. Alors, on nous a parlé ici du fait qu'il faut ces trois manière d'être celui qui chevauche l'âme. Okay? Abraham, Moïse et la Mashiach. Et s'il n'y a pas les trois, eh bien, on bascule dans ce que j'ai appelé, peut-être qu'il y a un mot plus approprié, je ne voudrais pas du tout être polémique, mais vraiment du cosmopolitisme. Et je crains beaucoup que les Juifs ne se rendent pas compte que l'accusation de cosmopolitisme dans la bouche des anti-juifs est une accusation authentique. Je crois que l'échec de l'universel hébreu, c'est le cosmopolitisme. Et vous comprenez, c'est pas pour rien qu'on nous reprochera de ne pas accomplir notre mission dans le cadre de la mission. Puisque nous sommes en Allemagne, enfin avec la culture allemande, et je vous rappelle une anecdote que j'ai inventée, mais qui... quand j'ai inventé, je l'ai dit. Mais qui me paraît extrêmement typique de ce qui a pu arriver dans cette recherche vraiment sincère de l'universel chez les philosophes juifs d'Allemagne, je n'ose pas dire les philosophes juifs allemands, parce que j'étais vraiment choqué par le titre de l'article du matin qui parlait de l'œuvre de M. Levinas, où on aurait là un philosophe grâce à Dieu, c'est pas vrai, on aurait un philosophe qui aurait réussi une synthèse entre l'Allemagne et le Talmud. Enfin, c'est complètement aberrant. C'est pas ça, Lévinas, grâce à Dieu. Mais ça, c'est le style journalistique, je suppose. Ben, c'est tout simplement que l'histoire de ce juif, je sais pas si j'ai déjà raconté, qui arrive en Allemagne, il vient toujours d'ailleurs quand on arrive en Allemagne. Et il vient d'un ghetto qui était ailleurs. Et puis alors, finalement, il est naturalisé allemand, il est même professeur d'université à Berlin. Alors un jour, un de ses collègues, avec qui il était ami, lui demande, mais enfin, vraiment, toi, qu'est-ce que tu es? Et l'autre répond, mais je suis allemand. Et plus que Mendelssohn, il ne pouvait pas le dire. Hein? Je suis allemand. Et l'allemand qui dit, écoute, à moi, tu ne peux pas raconter ça. Dis-moi comment tu te connais, toi-même. Il dit, mais je t'assure, je suis allemand. Et s'il avait un peu de mauvais goût, il aurait ajouté, comme on fait souvent, plus que toi. Et puis alors l'allemand qui dit, alors moi, qu'est-ce que je suis? Et le juif qui répond, toi, t'es goy. Et alors, vous voyez le résultat. Voilà où ça peut mener. Bien, oui.
Je voulais poser une question sur les deux derniers paragraphes de Maharal, où il n'emploie pas l'ordre chronologique. Il met d'abord Abraham, puis le Messie, et puis ensuite Moïse.
Est-ce que c'est les deux fois où il a pris cet ordre ou la deuxième fois?
Dans les deux.
Et
ça veut dire qu'il rejoint un peu l'ordre de la Tefila.
L'ordre de?
Dans la Tefila, dans la première scène.
C'est-à-dire
l'ordre.
Ah, ça c'est un oussard. Il y a d'autres.
C'est l'ordre de la Tefila.
Enfin, dans un oussard.
Dans l'oussard Ashkenaz.
Oui, oui. Mais il y a d'autres oussards où il y a Chokhma bina Vedaat. Ça c'est chez les Chassidim et chez les Babyloniens. Et il y a Dea bina Vehaskel chez les Sfaradim. Et il y a plusieurs sortes de.
Le Maharal ne sait pas l'ordre de la.
C'est exact.
Abraham,
oui, c'est exact.
Moïse et Messie.
C'est exact.
Deux fois, il y a Abraham, Messie.
Oui, je n'ai pas de réponse. Et si tu peux nous proposer une hypothèse, mais je n'ai pas de réponse.
C'était une vraie question.
Oui, c'est une vraie réponse. non, c'est une vraie réponse. Je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'un jour, on aura. Ken.
C'était tellement riche, tellement dense que. Un peu certaines notions, par exemple, on est parti de Ni, Rori, Israël.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait retenir et faire un peu une sorte de résumé en voyant le rapport avec l'âne? Premier point. Deuxième point, on a à travers le Maharal, dit donc, Réchi, Péchor, et puis on a dit Atrala. Atrala, est-ce qu'on peut voir
Oui, mais c'est tout l'objet de l'ensemble de l'analyse. C'est très bien résumé, d'ailleurs. Est-ce que vous voulez que nous en parlions maintenant ou demain?
Demain.
Hein? Non, écoutez, parce que ce que j'ai en tête... Non, parce que, premièrement, je suis vraiment un peu... Hein, mais le climat, là... ce que j'ai en tête, c'est surtout ce que j'ai dit vers la fin. C'est-à-dire qu'il y a une réalité anthropologique qui apparaît là. Et que cette réalité anthropologique est véhicule de l'universel. Je crois, nous avons appris cela depuis des générations, et nous-mêmes depuis que nous étions jeunes étudiants, mais ce n'est qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à propos de ce séminaire, que je vois les choses aussi clairement pour savoir les dire. Parce que j'ai toujours été handicapé, j'ai ressenti comme ce risque d'accusation de racisme. Alors, je crois qu'il faut se débarrasser de cela. C'est pourquoi je vous propose la catégorie anthropologique et non pas du tout raciale. Et c'est une manière d'être homme qui consiste à être le premier-né de l'homme et qui seul porte l'universel de façon historique et radicale. Alors il y a sainteté. Et c'est une manière d'être relié à la nature et à la matière sans être perdu en elle. Il y a un tout autre thème dans les mêmes sources d'ailleurs, c'est la différence entre Abraham et Bilam. Lui est relié à l'ânesse. Et l'ânesse est au féminin, alors que l'âne est au masculin. Et le Midrash dit que c'était sa femme. Okay. Il se conduisait avec l'ânesse comme on se conduit avec son bazou. Okay. Vous connaissez ces Midrashs? Bon. Ça veut dire qu'il y a vraiment compromission avec la matière chez Bilam. Et par conséquent, sa relation à l'esprit et à la sainteté est impure. Parce qu'il est de la matière et non pas de la... Et là, nous avons la différence entre le monothéisme hébreu et le dualisme d'autre part. C'est-à-dire la relation à l'esprit chez le dualiste est impure, parce qu'il est dualiste. Et par sa réalité, il est du côté de la matière. Il est en complaisance avec la nèse de Bilam, si vous voulez. Alors que chez Moïse, chez Abraham, chez le Machiav, c'est un âne, c'est pas une ânesse. Et il faut une monture pour chevaucher le monde. Mais il n'y a pas de lien sexuel, si j'ose dire, entre l'esprit et le corps. Tandis que chez les dualistes, il y a un lien sexuel entre l'esprit et le corps. Alors on est chaste en intention, et puis on couche avec l'ânesse. Et voilà, voilà, grosso modo. Alors cette chasteté d'intention, elle est impure. Bon, il faudrait analyser ça aussi d'autre part. Mais je veux dire que je ne voudrais pas aller trop loin, mais je pense que ça devait être déjà très difficile au Maharal d'indiquer cela. Il y a une catégorie anthropologique. Elle n'est pas, encore une fois, raciale, mais elle n'est pas culturelle. On n'est pas juif par les idées. Ça, on peut être cosmopolite, ça oui. Mais la valeur de l'universel de l'homme à travers les catégories hébraïques ne peut avoir qu'un corps hébreu. Et c'est ce corps hébreu qui fait le juif. Et c'est ce corps hébreu qui fait que le juif est universel. Je crois qu'on ne peut pas... Et c'est ça le premier-né. Et c'est ça divin. Et c'est ça la sainteté, tout cela. Et au fond, c'est à cela que veut faire allusion le mythe chrétien. C'est cela, le Dieu médiateur des goïms pour le christianisme. Israël. Okay. Et alors, tout ce vocabulaire chrétien qui reprend les mêmes catégories, mais en théologie, à proprement parler, eh bien, c'est cela que Jacob avait refusé, en disant, je ne veux pas être enterré en Égypte, on va m'adorer. Ou Joseph, par la suite. D'ailleurs, Joseph, c'est le nom du messianisme chrétien poussé à la limite. Et en France, il paraît qu'il y a des écoles qui s'appellent déjà Or Joseph. Et vous voyez, ne croyez pas que c'est par hasard. Et ce qui m'a étonné, mais en même temps rassuré, mais j'ai fait faire corriger ça, parce que je connais le publiciste qui a fait le... C'est quand même qu'ils auraient pu mettre Or Yosef. Allez, je ne sais pas si ça doit vous frapper. C'est d'un mauvais goût inouï, enfin d'une inconséquence grave. Il n'y a pas des inadvertances de ce genre. Or Joseph, ça n'existe pas. À la rigueur, c'est Or Yosef. Mais voilà, c'est écrit Or Joseph.
Pourtant, c'est Roland.
Je sais, c'est de lui que je parle. Et alors, comme je lui ai demandé de corriger ça, ne serait-ce que par bon goût, quoi, eh bien, il a découvert qu'il y avait un problème.
Vous voyez que... Parce que c'est ni français, ni hébreu.
Et non, c'est diaspora. Bien. Et qu'est-ce qu'il a dit en parler?
Or Joseph.
C'est assez extraordinaire parce que ça prenne de telles dimensions, et c'est inquiétant. C'est rassurant d'un côté pour le haut, mais pour Joseph. Pas le premier fils,
pas le premier.
Oui, qui n'est pas le premier né de Hagar. Il y a eu un avortement entre temps que le texte indique d'ailleurs, le texte de la Bible. Bien. Ah, ça vous trouverez toujours, enfin souvent, dans le vocabulaire du Maharal et de beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge, un emploi du masculin et du féminin qui ne renvoie pas à nos règles grammaticales. Il n'y a pas de problème. Mais je voudrais pas aller trop loin. On me reproche souvent de trouver un sens, même aux fautes d'orthographe. Mais ce n'est pas des fautes d'orthographe. Bien, alors on se revoit demain.
Oui, bien sûr. Attention, oh là là, attention.
Non, pas grave. je suis en train de me battre avec votre... Voilà. Voilà. Non, bah attends, je vais me débrouiller. Non, non. Non, non, je vais me débrouiller. Pour l'instant, ça devrait aller. Donc, je pense on va... Qu'est-ce qu'il y a à noter ici? Moi, je vais mettre le seul. 25, 25, 25, voilà, on a juste eu la place. 2, c'est vraiment passionnant. Oh, c'est très, très, très intéressant. Et vraiment passionnant.
Vous m'écrirez aussi ce que je vous demande.
Oui, je vous en prie, oui. Je vous dis, bon, ce sera le... Ce que vous pouvez faire, c'est me renvoyer les cassettes. Hein,
alors c'est fait.
Je dirais à Charles.